la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire. Par oui dire.
Quoi, c'est important l'art? Pourquoi c'est important de le faire?
L'art.
Façon de voir.
Une œuvre d'art, et elle a un auteur. Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme.
Façon de voir.
Façon de voir.
Façon de voir.
Découvrons ou redécouvrons le Salon d'art. La galerie du coiffeur Jean Marchetti qui présente en cette année 2027 sa 50e saison et l'affiche est prestigieuse avec notamment une exposition extramuros au centre de la gravure à La Louvière. Ensuite, nous ouvrirons un livre édité par le Fonds Mercator, un parcours d'architecte qui est consacré à Jos Franssen, 1906-1990. Il a construit des maisons unifamiliales et des immeubles à appartements. Les 50 ans du Salon d'art, 81 rue de l'Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles, Bruxelles, Jean Marchetti, coiffeur, galeriste et éditeur. Cette année 2027 sera jalonnée d'expositions. Roland Topor, Paul Cox, Glenn Baxter, Nathalie Amand et Pierre Alechinski. Jean Marchetti, qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui a donné l'impulsion de ce salon de coiffure devenu galerie d'art et puis maison d'édition ?
Le défi. En 1976, quand j'ai commencé, l'art était mis sur un tel piédestal que j'avais envie de donner un bon coup de pied dans cette fourmilière de deux endroits où parfois on a quand même tendance à s'ennuyer, de certaines galeries qui se prennent très au sérieux, et des salons de coiffure tout aussi sérieux ou tout à fait cons, et donc j'en fais peut-être partie hein, d'ailleurs, mais donc quand on est seul on croit qu'on est le meilleur, donc on essaye de de s'amuser.
Et la galerie a précédé la maison d'édition?
Ah oui, bien entendu, oui, mais la maison d'édition c'est une vieille histoire entre moi et moi, je suis très amoureux du papier depuis toujours. Et puis les rencontres avec Louise Kuttner et cette envie de partager une bibliothèque imaginaire.
Kuttner, c'est l'approche réaliste. Est-ce qu'il y a une famille d'auteurs dans cette Pierre Dalin ?
Oui, il y a une famille d'auteurs, oui, effectivement. Mais je crois tout simplement, me concernant, c'est une famille. C'est un peu mon grand-père, quelque part. Et j'ai été reçu très rapidement par lui. Tout simplement parce que j'avais un joker que j'ignorais, j'étais italien, et ils adoraient tous les deux l'Italie, Reine Amoir et Louise Kuttner. Donc comme j'étais italien, voilà, c'est vraiment ouvert et j'ai pu accéder à un univers tout à fait exceptionnel, d'autant plus que je suis tout à fait autodidacte. Donc aussi la maison d'édition, mais surtout la galerie au départ, était une réponse à une quantité de personnes qui étaient en majeure partie outrées à l'idée que des gens comme Van Gogh atteignent des prix astronomiques en vente publique, mais de leur vivant ne pouvaient pas vivre de leur art. Et puis un jour je me suis levé, je me suis dit c'est de votre faute, c'est vraiment de votre faute, parce que de leur vivant vous leur faites pas confiance. Donc je vais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui se dit, une manière de partager les choses. Donc pour moi tout est partage, que ce soit l'édition ou la galerie.
L'enseigne de la galerie, c'est un topor.
Ah oui, oui, c'est un topor qui est venu bien après, parce que moi j'ai commencé à la galerie au 107 de la rue Hôtel des Monnaies. Dont j'exploitais au niveau de la coiffure 20 mètres carrés. Et puis j'ai développé un espace de 40 mètres carrés que j'ai transformé en galerie. Et l'idée est venue aussi parce que, bon voilà, le jour de mes 21 ans, j'ai racheté mon salon de coiffure et je me suis dit, bon voilà, Jeannot, c'est bien. Hein, tu as un salon de coiffure, tu as un diplôme, mais quoi, tu vas faire ça toute ta vie. Et je me voyais mal faire ça toute ma vie uniquement, donc voilà.
Et ton port ?
Et alors topor, voilà, ça s'est passé de cette manière-là. En 82, j'invite topor à exposer. Malheureusement, topor s'engage avec une autre galerie à Bruxelles. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Et je lui dis que bon, le lieu chez moi est un lieu un peu particulier. C'est un centre de coiffure et une galerie. Il m'a dit, bah oui, c'est bien. Bon, on va faire une exposition ensemble, mais de groupe. Alors, pourquoi ne pas faire une exposition du mouvement Panique?
Avec Arabal,
enfin les fondateurs.
Jodorowsky.
Oui, Jodorowsky était loin, donc impossible de l'atteindre. Enfin, c'était Panique universelle, avec tous les amis, Olivier, Roman Sislevitch, Christian Zemmer.
On dit Panique et l'ambulance passe.
Là. Oui.
Roland Topor, feu Roland Topor, mais on est vraiment mort que quand on vous a oublié, pas avant. Une exposition de Roland Topor ouvre cette 50e saison du Salon d'Art à partir du 5 janvier, ce lundi.
Moi j'ai beaucoup de tableaux au mur, et ben, à cause des vibrations de la rue et tout ça, ils sont rarement tous d'aplomb. Et donc cette impression de naufrage imminent ne vient pas de rien. Il y a assez peu de place pour les artistes dans cette société. Alors, on prétend que si, mais un artiste commercial qui travaille pour la pub, ça va, il a une place. Mais si quelqu'un, un jeune homme qui sort aujourd'hui des Beaux-Arts et qui veut essayer de faire une œuvre de peintre, son avenir n'est pas brillant. Ce sera très difficile, à moins qu'il change, je sais pas. Enfin, il me semble, peut-être que c'est parce que je suis vieux aussi, que j'ai moins d'énergie et que j'ai cette vision pessimiste.
Partie de zéro, arrivée à pas grand-chose, vous dites.
Oui, mais... On ne peut pas dire qu'on part en plus que zéro, puisque avant, c'est en dessous de la moyenne, hein, avant de naître.
Oui.
Et on est ni zéro, ni beaucoup, on n'est rien. Ensuite, le point de l'abscisse, le début, c'est zéro. Et puis ensuite, ça finit. Ça ressemble.
Ça décroît.
Ça ressemble aux courbes du commerce extérieur. Il y a un dessin de Chaval qui était magnifique. C'était Self-Made Man. Et c'était un type extrêmement mal fait. Très mal dessiné. Avec des grands bras, des petites jambes. Enfin, vraiment nul.
Roland Topor, du mouvement Panique en 1996. On dit Panique et l'ambulance passe.
Oui, les bandes sonores, les belles rencontres. Et donc, oui, et il se passe que mon frère habitait pas très loin, juste en face du nouveau lieu où je me trouve maintenant, depuis 82. Et je passais ici, et c'était alloué. Et j'ai poussé la porte, j'ai regardé, j'ai vu l'espace qu'il fallait transformer, mais qu'il y avait un potentiel. Et en même temps, ce qui était surtout pour moi fondamental, c'est que le loyer était excessivement abordable pour moi, pour que je fasse d'abord une seule chose, ce que j'avais envie de faire, et pas être tributaire de devoir faire des choses pour payer un loyer. Donc j'ai décidé de louer, et il y avait une enseigne. Et comme l'exposition au 107 se terminait, j'avais l'intention de faire toutes les transformations pendant mes vacances. Et j'explique à Topor. D'abord, il se passe que Topor dit à un ami qui est Patrick Rougers, il dit, tu sais, il va avoir une exposition à Bruxelles. Ah bon, je ne connais pas chez qui. Donc on s'est rencontrés, on a parlé et il m'a confié une quantité de documents. Entre autres, un petit livre qui s'appelle Panique, publié en Californie. Et dans ce petit livret, il y avait un dessin qui est devenu mon enseigne, mais qui était en noir obscur.
Vous le décrivez ?
Ah oui, c'est un homme vu de dos, avec un peigne planté dans la tête, dont la moitié du crâne est mise à nu par le cerveau. Je trouvais que c'est une image très très forte me concernant. Et c'est un de mes plus vieux clients, à qui je confie le livre pour qu'il le consulte, qui me dit, ça, ce serait une merveilleuse enseigne. Et je dis, mais enfin, voilà. Parce que moi, ce que je voulais faire initialement, je suis contre les enseignes. Souvent, elles vous promettent beaucoup plus que ce que vous pouvez recevoir. Et je m'étais dit, tiens, moi, c'est très simple, je mets un point d'interrogation à gauche et un point d'interrogation à droite. Voilà ce que je... Rien d'autre. C'était exactement ce que je voulais faire. Et puis, bon, quand j'ai ramené les œuvres à Roland, je lui en ai parlé, je lui ai dit, tu sais, je vais déménager, je vais avoir une enseigne. Et je lui ai demandé si je pouvais utiliser ce dessin. Et il m'a dit, oui, mais il faudrait le détourer. Je lui ai dit, c'est ce que je voulais te proposer. Je l'ai détouré, je l'ai fait imprimer par un ami sérigraphe, qui m'a gentiment fait d'ailleurs l'impression. Où j'ai été très heureux, c'est que cette image retravaillée par moi, suite à la conversation que nous avons eue, a repris son droit chemin dans son œuvre. Il l'a diffusée telle qu'elle. Donc je suis vraiment très très content de tout ça.
La pierre d'Alain, la maison d'édition, la pierre d'Alain. Qu'est-ce que c'est, la pierre d'Alain ?
La pierre d'Alain, c'est une pierre hémostatique qui est un double sulfate d'aluminium et qu'on utilise à pré-rasage, d'une part, pour resserrer les pores de la peau. Et s'il y a éventuellement un poil qui s'est retourné ou ça saigne un tout petit peu ou éventuellement une petite coupure, l'ensemble se referme entièrement grâce à son astringence. Alors, j'ai utilisé la pierre d'Alain, le nom de la pierre d'Alain, parce que je voulais mettre en évidence non mon nom, mais mon métier. Je voulais qu'on sache que je suis coiffeur et que je tiens à le rester. D'ailleurs, pour moi, c'est important d'être toujours et suffisamment autonome, ne pas devoir être obligé de faire des choses pour ce que je veux réaliser. Donc, montrer des œuvres, je ne voulais pas faire des sacrifices, montrer n'importe quoi, sous prétexte qu'il fallait à tout prix faire tourner la marmite. J'ai montré ce que je souhaitais, je montre toujours ce que je souhaite, et avec un type de qualité qui m'est bien particulier. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et donc, de fil en aiguille, avec André Balthazar, qui avait la maison d'édition du Délibule, feu notre ami André, je lui avais demandé de m'aider à trouver un titre d'édition, parce que ce que j'avais proposé n'était pas juste. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai parlé à Lichinsky, qui lui m'a dit, je vais y réfléchir. Et un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, j'ai trouvé, appelez-moi, je rentre de voyage dans une semaine ou dans un mois, et on se verra à ce moment-là. J'aurais fait certainement des choses. Et donc, voilà comment les choses se sont passées. Et lui a joué sur le miroir, et surtout, par sa grande facilité d'ambidextre, il écrit des deux mains à la fois. Et donc, c'est vraiment sur ce jeu de miroir-là. Et donc, quand on regarde le logo, qui est un livre entrouvert, même, il en avait fait, je ne sais pas moi, 50 quand j'étais chez lui, au moins 50 dessins différents. Et j'étais tétanisé en me disant, mais enfin, cet homme a consacré tellement de temps. Il m'a dit, voilà, servez-vous. Mais comment se servir ? C'est comme si on rejetait les autres. Donc, j'étais droit vers celui-là, parce que pour moi, c'était une forme référente d'un livre ouvert. Et en même temps, le jeu du miroir, une écriture à l'endroit, une écriture à l'envers, avec le même texte.
La pierre d'Alain.
La pierre d'Alain, oui, la pierre d'Alain, mais aussi avec cette idée d'une épreuve imprimée. Vous savez, quand on imprime, on fait le dessin à l'envers et elle se lit à l'endroit. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais aimé dans ce travail. Et depuis, voilà, ça va faire bientôt... J'ai commencé en 82, là, pour mes 30 ans, hein, parce que la galerie... J'ai acquis le salon à mes 21 ans. À 23 ans, à la veille de mes 24 ans, je m'offre la galerie. Et pour mes 30 ans, je crée ma maison d'édition.
Ces éditions La Pierre d'Alain qui rassemblent une galerie d'artistes également, des plasticiens et des écrivains. À l'époque, c'était assez rare finalement ces dialogues entre l'image et le texte.
Écoutez, j'en sais rien. Moi, j'ai fait les choses comme je le sentais. Maintenant, après coup, je ne pense pas que j'ai ouvert une voie spécifique. Je pense que Picasso a illustré la métamorphose de Kafka. Il y a eu des gens bien avant moi, mais ça n'avait pas trop d'importance pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était avoir un lieu d'échange et de partage. Mais surtout, ce que j'ai essayé de faire depuis toujours, c'est d'associer écrivains et artistes qui n'ont réellement jamais travaillé ensemble, mis à part quelques exceptions. Par exemple, quand j'ai publié le livre de D'Autremont, Isabelle, bon, forcément, on pouvait difficilement associer d'autres artistes que le mouvement Cobra, donc ceux qui restaient. Donc ça, effectivement, j'ai fait les concessions. Mais pour moi, D'Autremont, c'était tellement un monument qu'on ne refuse pas ce genre de choses. Bon, il était décédé, mais enfin, bon, j'ai quand même pu le faire avec des survivants, avec Joseph Noret, qui est un des cofondateurs quand même de Cobra, et le frère Guy D'Autremont. Donc voilà, ça, c'était les exceptions. Mais bon, je pense avoir fait des rencontres tout à fait inédites. Un autre plaisir, c'est d'avoir un projet avec des textes d'Éric Satie, par exemple. J'ai mis près de 15 ans à pouvoir réaliser ce souhait, en sachant très bien que ça allait pouvoir se faire avec Elchinski, mais c'était inutile de lui proposer une chose qui pouvait balayer d'une main parce qu'il était trop occupé. Et un jour, je lui ai dit, un jour extraordinaire, comme ça, vous sentez les disponibilités, je dis, tiens Pierre, je te sais musicien, est-ce que ça t'amuserait d'illustrer un livre d'Éric Satie? Et puis il m'a dit, Éric Satie, il y a encore des inédits? Je lui dis oui. J'appelle Ornella Volta, elle me donne la quantité de matériaux pour le faire. À l'époque, ça se passait par fax. Je lui envoie quelques feuilles par fax. Il me répond en me téléphonant en me disant « c'est formidable, je mets mon boulot tout de suite ». Ça, c'est un grand plaisir. Oui. C'est aussi cette notion d'arriver à proposer quelque chose à un artiste qui, dès le départ, ça ne lui est pas indispensable. Et après coup, c'est vraiment indispensable.
Indication de jeu, Éric Satie et Pierre Alechinski, l'ouvrage a paru à la Pierre d'Alain en 2002.
Une dame savante, Ornella Volta, qui dirige la fondation Satie, qui est le cœur et le cerveau de tout ce qui concerne Satie aujourd'hui, elle a dressé une liste d'indications en les déconnectant des partitions. D'ailleurs, Satie interdisait qu'on lise ces indications de jeu pendant qu'on joue. Je suis sûr que des musiciens n'ont pas tenu compte de cet ordre. D'ailleurs, tous les ordres qu'on donne sont rarement respectés, c'est tout à fait normal. C'est comme si dans son testament, on écrivait « n'oubliez pas de peindre la salle de bain en jaune ». Vous feriez rire votre descendance. Alain Planès, un excellent pianiste qui joue très très bien Satie, me racontait qu'au Japon, il a joué Satie avec un accompagnement d'indications de jeu qui était traduit en japonais et dit en japonais sur scène. Donc c'est déjà lancé. Mais là, c'est différent. C'est déconnecté de la musique. Et le livre, fabriquer ce livre m'a d'abord inquiété parce que les indications de jeu sont des ordres souvent péremptoires ou qui vous mettent dans une situation ridicule, ce qui est sain. Et j'étais aussi dans la discipline d'un livre parce qu'un livre est une petite architecture en soi. Il faut respecter toutes sortes de règles qui ont à voir avec la typographie, le nombre de pages, etc. Et les moyens employés. Dans la collection que dirige Marchetti, la Pierre d'Alain, il y a une règle très simple, on se limite au noir et blanc. Et les exemplaires de tête, dans le cas de ce livre-ci, une petite eau-forte qui représente un métronome, qui est sans doute un très très mauvais souvenir pour beaucoup d'apprentis musiciens. Mais avoir cette liste par ordre alphabétique, c'est très intéressant parce que il y a une poésie qui se dégage de cet ordre dont personne n'est responsable. Il n'y a pas de choix. S'il y avait eu un choix, on aurait senti sans doute toutes sortes d'hésitations. Je mets ce mot-là avant celui-ci, etc. L'ordre alphabétique était encore un autre ordre. Il y avait les indications qui sont plutôt des ordres de jeu et l'ordre alphabétique. Alors, l'illustrateur est à la fois, non pas paralysé, mais tout de même inquiété au départ.
Les moments forts se succéderont au Salon d'Art en cette année anniversaire, 50e saison de la galerie de Jean Marchetti installée au 81 rue de l'Hôtel des Monnaies à Saint-Gilles. Paul Cox succédera à Roland Topor, Pierre Alechinski refermera la saison en fin d'année et Glenn Baxter présentera au printemps de nouvelles œuvres. Glenn Baxter, dessinateur britannique, maître de l'humour absurde, peintre illustrateur au parfum surréaliste et aux multiples références.
René Magritte et Max Ernst, j'aime. Je suis un admirateur de l'œuvre de René Magritte. Il fait les dessins avec un style très simple et très curieux. C'est comme un Baxter.
Chez Baxter, il y a la légende, les mots qui expliquent, semble-t-il, l'image. Or, cette légende est toujours décalée. On a l'impression qu'elle n'a rien à voir avec l'image.
C'est très important pour l'image. Il y a un frisson. C'est l'expérience de Baxter, c'est une expérience cérébrale, n'est-ce pas?
Par exemple, texte passe un très long temps à contempler un camembert. Et que voit-on?
Oui, l'artiste, comme Jarry et Satie, les œuvres subversives. Très important.
Vous écoutez beaucoup la musique d'Eric Satie?
Ah oui, oui, c'est le Met.
Duchamp appréciait beaucoup Eric Satie, je crois.
Duchamp et aussi Raymond Roussel, c'est très important. Il y a beaucoup de Baxter, le colonel, le professeur, l'anarchiste aussi. Incredible.
Le dernier mystère, c'est Baxter.
Le dernier mystère, c'est vrai. Yeah. How do you say it's a real event? It's true, yeah. It's a fact. It's actually happened in 1930s. They flew the airplanes.
C'est un pseudonyme, en fait, Glenn Baxter, c'est votre vrai nom?
Oui, c'est vrai, oui.
Oui, bon, on n'en saura pas plus.
René and Georgette Magritte with their dog after the war.
Au Salon d'Art à Saint-Gilles, le surréalisme et Cobra avec Alechinski ne sont jamais loin. Baxter, qui s'inspire des illustrations sorties de romans pour enfants du 19e, trempe aussi sa plume dans l'encre surréaliste. Et Nathalie Amand, la photographe, présentera ses photomontages d'inspiration surréaliste à la rentrée d'automne. Nous l'avons rencontré dans son atelier à Vezon, situé dans le Grand Tournai.
C'est mon atelier.
Nathalie Amand.
Oui.
À Vezon, vous nous recevez chez vous.
Oui, dans mon atelier, voilà, ici à l'étage. Donc ici, c'est la partie où je fais mes collages, la table de gravure qui est là. Et là, ici, c'est mon studio dans lequel je pratique. Je fais beaucoup de prises de vue, c'est ici que je fais mes photos en général.
Avec une belle lumière.
Oui.
Grande baie. Hein.
Une belle lumière avec des grands Velux et un bon pignon au nord. Donc la lumière reste constante, ça c'est bien. Voilà.
Jean Marchetti, personnalité singulière, un galeriste, un éditeur.
Oui. Un artiste aussi. Pour moi, c'est un artiste aussi. J'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui et il participe énormément dans le travail, notamment avec le Carnet Rose, ce travail-là. avec Jacques Socher. J'avais réalisé un premier livre avec Jean, les collages.
Papier collant.
J'avais donc réalisé les collages, et là c'était Caroline Lamarche qui avait réalisé les textes. Et ici c'était l'inverse, donc c'est Jean qui me proposait des textes de Jacques Socher, avec le carnet rose. Et moi, je devais les mettre en musique, quoi, avec mes collages. Et donc là, il a participé. Ça a été à chaque fois un aller-retour, des discussions. Il a vraiment collaboré à la réalisation, vraiment, des images aussi. Et donc, il y a vraiment eu un va-et-vient très enrichissant.
Donc, j'ai vous fait confiance.
Oui, il vous donne
carte blanche, mais en même temps, il intervient.
Oui. Mais moi, j'aimais bien, parce que ça me donnait des pistes de réflexion nouvelles. J'ai pas senti ça comme une invasion. J'ai vraiment senti ça comme une collaboration.
Et vous aviez réalisé une première exposition en 2018 au Salon d'Art qui s'intitulait « En deçà des apparences ». C'était de la photographie, on pouvait imaginer des formes qui apparaissaient dans ces espèces de fourrés de nature.
C'était des paysages.
C'était un travail sur la vision en fait.
Oui, c'était
Que voit-on ?
C'était aussi un travail sur la vision, sur qu'est-ce qu'il y a derrière l'image en fait. Et c'est toujours ça moi qui m'a intéressée dans mon travail, c'est le questionnement du regard, que ce soit dans mes hommages licencieux, que ce soit dans mes paysages, dans mes gisants, c'est toujours un petit peu ce qu'il y a au-delà des choses, au-delà du réel. Au départ, quand je faisais mes photos, je ne percevais pas nécessairement une présence ou une figure que je remarque, non. C'était à chaque fois des découvertes régulièrement après. Le noir et blanc aussi amène aussi ça, hein, parce qu'on a une vision qui est beaucoup plus détachée de la réalité. En noir et blanc, et donc du coup, y a des formes qui apparaissent qu'on ne voit pas nécessairement tout de suite en couleur.
Vous pratiquez l'argentique, le noir et blanc, moyen, grand format.
Oui, et je pense que tout mon travail artistique est toujours axé là-dessus. C'est moi, ma relation au monde, ma relation au réel.
Carnet rose, vous défleurez un peu.
Oui. Mais là, en fait, je suis partie de mes images d'hommages licencieux, donc de mes propres photos que j'ai découpées, parfois réimprimées sur un papier plus adéquat, ajustées aussi au niveau de la taille et que j'agence avec des fleurs.
Hommages licencieux, vous abordiez le nu.
J'abordais le nu et surtout...
Le rapport au corps, la sensualité.
Le rapport au regard sur le corps. D'accord, c'est des nus, mais c'est d'abord je pose et j'offre mon corps à ton regard et au regard du spectateur. Donc pour moi, ce triangle est très très important.
Vous avez des images là ?
Oui, ils sont là les collages, il faut que je les cherche. Mais,
Oui,
j'en ai.
Parce que vous avez réalisé des collages aussi avec des jambes, corolles, pistils, des yeux sortis comme de vieilles planches anatomiques,
oui,
des
c'est
coquillages.
Ça, c'est la continuité de cela.
Un peu comme l'illustration en fait, ce magazine du 19e, 20e siècle français.
Oui, j'aime bien de travailler à partir de vieilles gravures aussi et de vieilles illustrations. Pour moi, c'est un côté narratif, quoi. Ce sont des illustrations, au final, puisqu'elles ont servi à collaborer avec le travail de Jacques Socher. Mais en général, mon travail est assez narratif, hein. Que ce soit les hommages licencieux, ou c'était toujours des petites scénettes, des petites mises en scène. J'interviens pendant la séance. Soit je prépare un décor ou une mise en scène, ou soit j'interviens avec des drapés que je fais bouger.
Vous êtes metteuse en scène aussi.
Oui,
hein.
Oui,
il y avait
oui.
Des jeux de jambes aussi que vous mettiez en scène dans ces hommages licencieux.
Oui.
Et là, on pensait qu'il y avait des références au surréalisme.
Oh, tout à fait. J'adore le surréalisme. J'adore Marx Ernst. Tous ces
oui,
gens-là.
Pour les collages.
Pour les collages. Ben, j'aime bien Hans Bellmer. J'ai beaucoup fait beaucoup de photos en lien avec sa poupée, à travers des jambes que je multiplie.
Man Ray aussi,
Oui, Man Ray. Peut-être aussi tous les hommages aux anciennes images érotiques qui se donnaient sous le manteau.
Photographie érotique du 19e.
19e, oui. Aussi Magritte. J'aime bien justement ce décalage de ce réel qui finalement est quelque chose de tout à fait subjectif en fait. Pour moi, la réalité, c'est quelque chose de subjectif. C'est toujours une vision.
On pourrait regarder une image.
Attends, il faut que je les trouve. Je crois que je les ai mis ici. Carnet rose, ça c'est le... Attends, tarot. J'ai pas beaucoup de place, donc je dois tout bien organiser. Tu vois, alors là j'ai tous mes petits trucs de collage, les trucs que je découpe, tous des vieux magazines. Et je vais chercher là-dedans mes boîtes avec tous mes petits brolles. J'ai deux boîtes comme ça. J'ai fait souvent les puces. Et je rachète plein de livres aussi. je collecte en fait tout.
Ah oui, la rousse du XXe siècle.
Ouais, oui, il y a plein.
L'astrologie.
Toute la collection. Je fais des découpages déjà à l'avance, donc je fais des thématiques, voilà. Les poissons en couleur, avec tous des poissons en couleur que je récolte. Là, je ne sais plus ce que c'est les insectes. Je catalogue tout, toutes mes petites découpes dans des classeurs. Et donc, voilà, j'étale. Là, c'est des objets.
Montgolfière, hein, il y en a souvent, parfois en tout cas.
Oui, c'est vrai. Oui, ben, la légèreté.
L'œil aussi.
Les yeux, oui. Ben, les planètes, hein, la lune, le soleil. Pour moi, c'est des choses, des instruments, musique. Enfin, il y a de tout. Des pierres.
On peut voir un collage, là ?
Alors, les collages, oui. Et du coup,
un collage du carnet rose.
Ouais. Alors, les collages ici. Voilà, ça par exemple, c'est Jean qui m'a... Oh, je ne connais plus le nom. Lorsqu'un texte est terminé, on met un petit... une petite apostrophe comme ça, avec toutes des volutes. Et ça s'appelle un cul de lampe. Je ne connaissais pas ce terme. Voilà, on va faire un cul de lampe là. Un cul de lampe. Donc j'ai fait des culs avec des lampes. Bah, il m'a expliqué ce que
avec
c'était.
Le barésie,
mais j'ai trouvé ça trop bien, un cul de lampe. Quel terme. Mais où est-ce qu'on va chercher ce
vous
mot
avez toute une collection là.
Et donc il y en avait plusieurs que j'avais réalisé, des culs de lampe. Comme ça. Voilà, là, ça ce sont les collages. Donc on est parti. Et ça aussi, ça a été une discussion avec lui. J'avais un ancien agenda vierge qui datait de, je sais plus quelle année, j'ai pas mis mes lunettes. 1922-23. Et je suis partie de ce carnet-là, parce que je trouvais que c'était esthétiquement, c'était sympa. Et puis ça avait du sens aussi par rapport à son carnet aussi, c'est les dates, le calendrier, enfin je veux dire, il y avait quelque chose de proche.
Et donc on a ce support quadrillé.
Voilà, qui est contrecollé.
D'un carnet.
D'un carnet avec une double page. Parce que c'est pas toujours évident dans les collages de trouver un support.
Moi, on peut décrire ceci, là.
Donc, alors c'est... ici, donc, c'est une femme qui a des jambes découpées dans un morceau de viande. Et donc, sa tête, son haut de corps, c'est un cactus. C'était en lien avec un texte de Jacques où cette dame, elle avait du piquant. Je ne sais plus très bien. C'était avec la dentiste. Je vais peut-être lire le texte,
oui.
Je peux. Je vais mettre mes lunettes.
Nina est dentiste, elle me plombe une dent, je vois ses deux fossettes.
Nina est dentiste, elle me plombe une dent, je vois ses deux fossettes près de mon visage. Elle m'embrasse pour me réconforter, c'est un coup de foudre en douceur. Nina est mariée, son mari est un savant perdu dans les modifications génétiques des plantes. Ils ne font plus l'amour depuis des années. Deux locataires habitent la maison, Lawa, un petit tigre de Suriname, Douchka, une civette, qui monte le long des portes. Je suis éblouie par la beauté du tigre et par les yeux de Nina qui accueille mon désir. Une nuit, Lawa est avec moi dans le lit de ma maîtresse. Elle me lèche la nuque avec sa langue rugueuse. Je me sens dans un tableau de Douanier Rousseau. À l'aube, elle n'est plus en chaleur et me mord le cou. Je saigne abondamment. Nina me fait un garrot qui arrête l'hémorragie. Je vis dangereusement. J'ai connu la passion dévorante. Elle ne dure pas plus de 3 ans, paraît-il. Et donc, voilà, je trouvais que le côté piquant de cette langue rugueuse et de cette morsure, je trouvais qu'il y avait quelque chose de...
Et cette sensualité des jambes.
Et cette sensualité des jambes aussi, oui. Puis les deux fleurs... Fleur de cactus. Il y a un petit élément déclencheur dans le texte et je pars de ça pour construire mon collage. Je ne voulais pas que ce soit une représentation directe.
On découvrira les photomontages du livre Le Carnet Rose en août prochain. L'ouvrage paraîtra à la Pierre d'Alain avec un texte de l'académicien Jacques Socher et une exposition de Nathalie Amand sera présentée au CIMES du Salon d'Art chez le coiffeur Marchetti, rue Hôtel des Monnaies 81 à Saint-Gilles. Le Salon d'Art qui fête son 50e anniversaire. Jean Marchetti, coiffeur, il n'y a qu'un seul fauteuil, effectivement. La relation est toujours personnelle entre vous et la personne que vous coiffez.
Mais elle est essentielle, je n'ai que deux mains, donc je ne peux m'occuper réellement que d'une personne à la fois. Et donc ce que je voulais et ce que je souhaite toujours faire, c'est arriver à mettre une parenthèse en rapportant vis-à-vis du client.
Ça, c'est le client qui sonne.
Ça, c'est le boulot, là. Un instant. Allô? Allô? Bon, voilà. On a raccroché. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'essaye de couper le temps. Les gens, quand ils rentrent ici.
Vous ne coupez pas que les cheveux, là.
Non,
vous coupez...
non. Enfin, je veux dire qu'ils arrivent dans un autre espace-temps qui fait qu'ils peuvent oublier, comment dirais-je, ce qui peut éventuellement les encombrer. J'arrive à leur couper les cheveux, on parle de tout, de rien.
Ils sont amateurs d'art ?
Pas forcément, mais c'est très étonnant parce qu'il y a des gens qui ne sont pas amateurs d'art, mais qui ont un regard et qui arrive à dire, tiens, voilà, ça c'est un tableau que j'aime bien. Ils ne se trompent pas. Les gens ne se trompent pas toujours. Vraiment, oui, il y a des gens qui ne voient rien du tout, il y en a d'autres qui voient très clair. Et le paradoxe, j'ai coiffé des gens qui se prétendaient collectionneurs et qui arrivaient du fauteuil à ma caisse et puis ils repartaient, ils n'allaient même pas voir la galerie. Mais c'était des collectionneurs, ils se disaient collectionneurs. Donc voilà, c'est la vie, c'est plein de paradoxes quand même.
La 50e saison du Salon d'art à Saint-Gilles s'ouvrira ce lundi 5 janvier. Parcours d'architecte est une collection des éditions Fonds Mercator. Un numéro est consacré à l'architecte Jos Franssen. Trois auteurs, Véronique Beaune, Mauricio Cohen et Benoît Moritz, pour parler de cet architecte belge né à Bruxelles en 1906 et décédé à Forêt en 1990. Jos Franssen s'est illustré dans l'architecture moderniste en construisant des maisons unifamiliales et des immeubles à appartements. Après un passage par l'école Saint-Luc et un différent avec un professeur qui considérait que la conception moderne de l'architecture n'était pas conforme aux principes de l'école, Jos Franssen rejoint l'atelier de Victor Horta à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, où il terminera ses études en 1928. Mauricio Cohen, est-ce que Jos Franssen a été influencé par Horta ?
Je ne dirais pas qu'il y ait une influence de Horta, parce que très vite, Franssen va s'inscrire dans une mouvance qui était assez populaire à l'époque, qui est l'inspiration à l'architecture hollandaise, l'extérieur d'Amsterdam.
Donc art déco, alors.
C'est une forme d'art déco, mais assez sophistiquée. Et très rapidement, il va s'éloigner de ce langage architectural pour aller vers celui du mouvement moderne, dans lequel il va s'inscrire et rentrer dans les circuits des architectes qui sont les protagonistes de ce mouvement, même s'il n'est pas issu de la cambre.
Alors, ces premières réalisations, on retrouve déjà des éléments du langage moderne, de larges baies de fenêtres, des façades épurées, des façades en briques, référence à l'école d'Amsterdam encore et toujours.
Oui, dans cette première phase, il y a un peu un mélange de ces langages, et lui dit quelque chose d'assez intéressant, que lui est très attaché à ses premières maisons, parce que ça représentait pour lui un effort considérable, parce que c'était une architecture novatrice qui ne plaisait pas spécialement aux administrations, et il fallait faire passer ces expressions nouvelles avec une utilisation différente des matériaux, des baies qui commencent à s'agrandir, une architecture qui s'épure, qui se simplifie dans son expression, qui devient plus graphique, sans jamais être excessivement radical, mais clairement en contraste avec les architectures plus traditionnelles qu'on voyait à Bruxelles.
Un immeuble à appartement modeste, place Jef Menekens à Molenbeek-Saint-Jean, c'est une commande de 1938. Pourquoi cet immeuble est-il un tournant dans sa carrière ?
On est là dans une sorte de transition où il met en place un système constructif plus efficace, performant et économique. Et puis, il commence à être en relation avec des sociétés de construction qui vont devenir, en fait, ses maîtres d'ouvrage principaux. Et là, l'idée est celle de pouvoir construire avec la promotion immobilière, mais faire de l'architecture d'une bonne qualité, tout en essayant de respecter les exigences de cette promotion immobilière.
Donc architecture fonctionnelle, rationaliste, il va collaborer notamment avec Louis Herman de Koning. Ils vont imaginer ensemble une maison modèle tout en ciment.
Oui, ils vont remporter un prix pour ce concours initié par les sociétés de production du béton. Et en fait, j'étais un grand admirateur de de Koning.
Architecture rationnelle.
Rationnelle, mais aussi dans une logique, non seulement dans la composition architecturale, mais dans l'usage des matériaux. Et c'est pour ça que quand on voit ces bâtiments, on lit toujours clairement la structure, elle est mise en évidence, elle apparaît comme un élément qui constitue l'organisation de la façade. Donc cette volonté vraiment de mettre à l'avant une sorte de vérité architecturale qui n'est pas dissimulée par des habillages, des décorations ou d'autres choses.
Louis Herman de Koning est un adepte de la préfabrication. Est-ce que Jos Franssen mordait ?
Chez Franssen, on peut dire que par la suite, il va plutôt suivre des solutions en accord avec le mode opératoire du constructeur, donc ce cas-ci, surtout la société Rotiens, avec qui il travaillait beaucoup. Et donc, on va voir parfois des projets dont la préfabrication est assez présente, d'autres un peu moins. Mais on voit bien comme il y a un travail sur la série, sur le rythme et sur la manière de créer de la diversité. Et ce n'est pas un hasard que, par la suite, il va quasi imposé à chaque fois à ses maîtres d'ouvrage de placer des œuvres d'art à proximité des entrées pour créer une espèce de contraste, de résonance entre la rationalité du bâtiment et de son dessin et une œuvre d'art qui est un élément de rupture et qui crée donc une sorte de tension.
Véronique Beaune, ingénieur architecte, vous enseignez à la faculté d'architecture Lacambre-Horta de l'ULB. Vous êtes une des trois auteurs de ce parcours d'architecte édité par le Fonds Mercator et consacré à Franssen. Jos Franssen, au tout début de sa carrière, en 1929, il avait 23 ans, il va construire sa maison atelier au Square Koggen. C'est un quartier où c'est peut-être le quartier où l'architecture d'avant-garde apparaît à Uccle.
Oui, effectivement, et c'est son quartier à lui aussi. Il va d'abord vivre au Square Koggen pendant 20 ans. Il va construire sa propre maison qui est fort déformée aujourd'hui. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il va construire un immeuble à appartement à l'avenue Koggen, donc à deux pas du Square Koggen, pour s'installer là-bas. Il prend l'appartement penthouse pour promouvoir l'appartement moderne pour une classe élevée.
Et nous sommes devant cette résidence Koggen, 244 avenue Koggen. On est en 1954.
Début des années 50. C'est à ce moment-là qu'il va nouer des relations très fortes avec l'entrepreneur Henri Rutiens. Donc il va dessiner les plans pour pas mal d'immeubles pour l'entrepreneur, dont cet immeuble-ci, qui est un des premiers, donc pour montrer cette idée de l'appartement moderne.
244 avenue Koggen, l'entrée de l'immeuble, c'est vraiment un signe. Et l'auvent aussi, une signature de Franssen, non ?
Oui, donc l'auvent, c'est très expressif, donc c'est un grand auvent. Et puis, juste à côté de l'auvent, il y a une sculpture de Franz Lamberechs en rouge, béton rouge, et qui en laisse, en fait, il y a une antenne de radio et de télévision qui monte jusqu'en haut, jusqu'au sixième étage.
Elle s'enroule autour.
C'est la sculpture qui est en bas, qui est en fait comme trois doigts. Et de là, il y a l'antenne qui sort. Et c'est une manière de montrer que c'est pour une classe aisée, parce que début des années 50, la télévision, c'était pas encore pour tout le monde. Et en même temps, de montrer aussi qu'il faisait quand même attention à tous les équipements collectifs.
Et la forme de la sculpture est organique, presque végétale,
oui.
Monumentale aussi, la verticalité.
Oui, la verticalité. Donc. Et en fait, c'est avec Franz Lamberechs que Joseph Franz va entretenir vraiment une bonne relation. Et Franz Lamberechs va concevoir beaucoup de sculptures pour ces immeubles. Parce que pour Joseph Franz, donc début des années 50, il y a aussi tout le mouvement de groupe espace d'André Bloch en France. Aussi en Belgique, il y a plusieurs architectes qui vont co-signer le manifeste d'André Bloch pour promouvoir l'art comme comme un moyen social de mettre l'art dans la rue, à disposition de tout le monde.
Et ce groupe Espace défendait également la synthèse des arts, arts plastiques, oui, architecture, ce qui avait une résonance chez Franzen.
Justement, il y a cette idée que l'art fait vraiment partie de l'immeuble, donc il prévoit ce qu'on a aujourd'hui avec le 1% évidemment dans tous les bâtiments qui est obligatoire. Mais donc là, Franzen, dès le début, il veut vraiment l'art qui soit intégré dans mes immeubles. Et donc du coup, lui aussi, il va mettre une œuvre de Frans Lambrechts sur sa terrasse de la Penthouse au 6e étage.
Ces apports des arts plastiques dans l'architecture, je le cite, sont aussi nécessaires dans leur splendide inutilité que le bijou sur la robe.
Oui, c'est ça qui termine, qui fait l'œuvre en fait.
Merci Véronique Beaune.
Merci.
Maurizio Cohen pour ce parcours d'architecte consacré donc à Jos Franzen, paru au Fonds Mercator. Il y a, écrivez-vous, des résidences de Jos Franzen qui sont de véritables logements, monuments. On pense par exemple à Europa, situé à Skarbek, à deux pas de la place Mézières.
Oui, il y a plusieurs immeubles, appartements, conçus pour la classe moyenne surtout. Il va construire aussi du logement, on va dire, de type social, même si on ne l'appelait pas comme ça. Mais ces bâtiments les plus remarquables et aussi les plus connus par le public, qui ne savent pas qui est Jos Franzen. Bien sûr, il y a Europa 1, il y a Europa 2, mais il y a aussi le bâtiment Les Nations, qui est face à l'hippodrome de Boisfort. C'est vraiment une balise dans l'espace urbain. Il y a une monumentalité remarquable qu'on peut comparer au bâtiment de l'ING, à la banque BBL, restaurée récemment. Parce que c'est des bâtiments qui ont une certaine radicalité et en même temps un dessin très élégant.
Bernard Moritz.
C'est moi-même, bonjour.
Bonjour. Vous êtes architecte, professeur d'architecture également à la faculté d'architecture de l'ULB. Et vous êtes un des trois auteurs de ce parcours d'architecte publié au Fonds Mercator et consacré donc à Jos Franzen.
Donc on se trouve au carrefour du boulevard Waïs et du boulevard Léopold III et donc devant un immeuble qui a été construit par Jos Franzen, l'immeuble Europa, qu'il a construit pour l'entrepreneur Rutjens, qui est un entrepreneur skarbekois.
C'était vraiment un signe dans le paysage.
C'est vraiment un monument au logement. L'immeuble fait plus ou moins 90 mètres de longueur, c'est quand même relativement grand, c'est la taille d'un îlot. Il se développe sur plus ou moins 12 niveaux hors sol, 120 appartements en collectivité, avec à l'intérieur l'idée de favoriser la vie collective. Alors, ce qui est particulier, c'est sa géométrie et sa courbure, en fait. Donc, l'immeuble est implanté sur un des carrefours principaux de Bruxelles.
Un axe stratégique.
Un axe stratégique quand on vient de l'aéroport. Donc, c'est très important par rapport à sa localisation.
Et la Grande Ceinture.
Et la Grande Ceinture, évidemment. Et alors, la perspective depuis Mézières, Reyers, etc. Et l'immeuble est courbé, mais avec des courbes à facettes qui donnent son élégance particulière. Et puis, il développe des compositions de façade assez rythmées, faites en transparence, avec des jeux d'opacité, des terrasses en creux, en relief. Et puis, à l'origine, comme on le voit encore sur certains balcons, des jardinières qui étaient suspendues, qui donnaient un caractère également végétalisé à ce bâtiment, malgré son caractère quand même très fortement affirmé au niveau de sa construction. C'est un immeuble en béton.
Il y a même un petit jardin qui le sépare du boulevard.
Alors, il y a un petit jardin, une zone de recul qui le sépare du boulevard, aménagé, oui, comme un espace de mise en scène, en fait. Donc, il y a deux entrées à cet immeuble, deux esplanades à chaque fois, qui donnent un côté majestueux, en fait. On rentre dans un immeuble monumental et on a l'esplanade devant les entrées. Donc, on a deux accès, avec des colonnes verticales, avec les ascenseurs, les escaliers, etc. Et puis, on a une sorte de rue intérieure qui va distribuer des locaux dédiés à la communauté, donc entre autres des chambres pour des invités. Le public qui était visé ici dans cet immeuble, c'était plutôt un public de classe moyenne, les appartements à chaque fois deux chambres. Mais donc, quand on avait un invité, on pouvait louer, et c'est toujours le cas aujourd'hui, à une sorte de chambre d'appoint qui se trouve au rez-de-chaussée. Il y en a plusieurs. Il y a également des locaux communautaires, donc une salle de réunion. Il y avait également, où il y a toujours, en fait, le concierge qui habite au rez-de-chaussée. Et puis, il y a une sorte de valeur un peu symbolique à cette rue intérieure. C'est un peu la rue suspendue de Le Corbusier à l'unité d'habitation, qu'on retrouve à Marseille. Bon, on la retrouve pas à l'étage, on la retrouve ici au niveau du rez-de-chaussée.
On peut entrer dans le hall,
pensez-vous ? On peut entrer dans le hall. Donc ici, il y avait à gauche une sculpture de Lambrex qui a malheureusement été enlevée, remplacée par un cendrier. Et donc voilà, on rentre dans le hall. C'est assez particulier parce que vous avez à chaque fois un hall qui est fortement éclairé. Et quand on se retourne, qu'on regarde le boulevard, c'est qu'on est littéralement projeté vers l'extérieur par le haut vent. Donc c'est particulier en fait dans ce type d'immeuble. Hein. Les entrées-sorties, les accès au bâtiment sont des moments qui sont valorisés et on met en scène l'accès depuis et vers l'immeuble, vers la ville. Et donc ici, on est le long du boulevard Léopold III dans un quartier qui est véritablement le quartier à la mode à l'époque. On est à côté de ce qui va devenir le site de la RTBF. Il était au moment où cet immeuble conçu, question d'y implanter les institutions européennes. C'est finalement la cité de la radio et de la télévision qui va être implantée sur le site du tiers national. Et donc on est vraiment dans le quartier qui est le plus à la mode de Bruxelles à cette époque-là.
À une époque où la voiture était très très importante également, la place de cette voiture se marque également dans ce bâtiment ?
Alors, il y a deux niveaux de parking souterrain, chaque niveau étant desservi par une rampe qui lui est spécifique. Il y avait également initialement prévu un car wash au niveau moins 1 avec une pompe à essence, qui n'ont pas été réalisées. Mais donc, voilà, l'immeuble est aussi conçu, je dirais, effectivement, en fonction de la présence de la voiture. Donc, on arrive plutôt par l'arrière du bâtiment. Je voudrais également rappeler qu'il y a également des clubs de tennis juste à côté de l'immeuble. C'était un atout dans la promotion de l'immeuble. On vendait ce quartier-ci, le quartier Oasis, comme étant un quartier jeune et sportif.
Finalement, cet immeuble a entre 60 et 70 ans.
Cet immeuble, il a été construit entre 58, alors je regarde les dates.
57-66.
Il a presque 70 ans. C'est un bâtiment qui a quand même relativement bien vieilli. C'est un immeuble tellement puissant que les qualités architecturales en sont préservées malgré cette transformation.
Et on l'entend effectivement, c'est un bâtiment bien occupé.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut juste voir l'escalier, s'il vous plaît ?
Merci.
Ça, c'est extraordinaire quand on regarde ça. C'est les cages d'escalier qui sont en façade arrière et qui sont éclairées naturellement sur, alors je pense que les 11 niveaux qu'il y a hors sol à partir d'ici. Donc ça donne une qualité en fait à ces immeubles. Dès qu'on sort de chez soi, on est littéralement propulsé vers l'extérieur en fait. Et alors on a à chaque fois deux ascenseurs qui desservent chaque niveau. Donc là on est dans cette rue intérieure. Ici à gauche vous avez la salle de réunion de la copropriété. C'est encore la salle de réunion, voilà, peut-être qu'on peut voir. Oui, il y a les chambres d'appoint qu'on peut louer.
Ah ben, je vous remercie monsieur.
Je vous en prie. Voilà, c'est ce qui sert de salle de réunion pour la copropriété. Je ne sais pas s'il y a d'autres réunions qui se produisent ici encore.
Entre nous, nous faisons la fête avant fin d'année, pour boire un verre ensemble, le voisin, et c'est tout.
Voilà. Ah oui, je vois les cacahuètes.
C'est ça. Oui, nous on fait déjà samedi.
Donc, après, il y avait aussi à la base des salles de jeux pour enfants au dernier étage. Mais bon, elles ont été condamnées. Il y avait des questions de nuisance acoustique. Mais donc, voilà. Et on voit une belle photo de l'immeuble, c'est bien. Une photo d'époque avec peut-être, oui, signe de la modernité qui a rapidement disparu.
L'antenne.
La grande antenne de télévision et de radio, en fait. Voilà. Au dernier étage, vous avez également à chaque fois des solariums à côté des salles de jeux pour enfants. Tout ça abordable pour des classes moyennes.
Merci Benoît Moritz.
Merci à vous.
Maurizio Cohen pour l'Expo Universelle 58, quelle sera sa participation ?
Il va réaliser le pavillon des banques et assurances qui s'inscrit clairement dans la modernité internationale, mais surtout, il va gagner une des médailles d'or des aménagements intérieurs. Il va faire la section d'architecture au sein du pavillon du logement, qui est une petite section. Il réalise une pyramide tronc à l'intérieur de laquelle il va placer sur les faces inclinées de ce volume une série de photos d'architecture contemporaine de tous ses collègues. C'est un pavillon qui est fait avec très peu de moyens. Les photos sont faites par les architectes même qui les envoient. Tout est anonymisé, donc si on ne connaît pas, on ne sait pas qui est l'architecte. Mais ça crée un panorama assez impressionnant de la production belge d'architecture à partir de 1945 jusqu'à 1958. À l'entrée de ça, trois panneaux qui mettront à l'honneur ceux qui considèrent les maîtres de l'architecture belge, Henri van de Velde, Paul Ancard et Victor Horta. Et puis on rentre à l'intérieur de cet espace qui est quasi mystique, dans laquelle on est entouré par ce panorama étonnant de réalisations.
Et on découvre que cet architecte était extrêmement modeste. Il a écrit ceci: « Peut-être me considérera-t-on d'avoir apporté à l'architecture, sinon une pierre, un petit caillou ?»
Oui, c'est quelqu'un qui se met jamais à l'avant. Il est vraiment réfractaire aux éloges. Et donc, en fait, c'est ses pairs qui vont le mettre à l'honneur, qui vont proposer des reconnaissances et des prix et l'inciter à exposer ses travaux. Sa modestie est, je pense, fruit d'une conscience de la difficulté du métier d'architecte et du fait de se sentir au service des autres et pas au service de soi-même.
Et nous refermons ce troisième volume de la collection Parcours d'architectes, édité par le Fonds Mercator et consacré à Jos Franssen, avec trois auteurs, Véronique Beaune, Maurizio Cohen et Benoît Moritz. Façon de voir est soutenue par la Direction des Arts Plastiques Contemporains et par la cellule Architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Réalisation Pascal Goffaut.